Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, des engagements, des questions, des écritures et des réécritures qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Aujourd'hui, suite de notre émission de la semaine dernière consacrée à Molière, oui, M comme Molière, en particulier à partir du spectacle intitulé Molière insolite, un spectacle musical et littéraire qui a eu lieu ce samedi 15 octobre à Saint-Leu-la-Forêt, à l'initiative de l'association Point de Suspension. Un spectacle où, comme dans ce rendez-vous conte, j'ai rappelé quelques anecdotes et faits souvent méconnus de la vie et des personnages de Molière. Spectacle littéraire et historique donc, mais surtout spectacle musical, rythmé par les extraits de pièces de Molière mises en voix et en musique par Thierry Leclerc, comédien et chanteur. D'ailleurs, des extraits des chansons que nous avons entendues dans notre émission de la semaine dernière sont toujours disponibles en podcast. Thierry Leclerc a commencé le spectacle par un célèbre monologue qu'on va entendre interprété par Jean Villard au Festival d'Avignon en 1952, Collector.
Oh voleur! Oh voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice, juste ciel! Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Et qui peut-être? Qu'est-il devenu? Que ferais-je pour le trouver? Où est-il? N'est-il point là? N'est-il point ici? Faut courir ou ne pas courir? Arrête! Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah! Ah! Ah, c'est moi. Oh, mon esprit est troublé. Et je ne sais qui je suis, où je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus qu'à faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre.
Ah! Vous avez bien entendu reconnu l'une des scènes les plus célèbres de l'avare. L'avare, c'est Harpagon. On reviendra sur le nom de ce personnage dans quelques instants. Comment fonctionne une comédie en général et celle de Molière en particulier? Tout d'abord, une intrigue, assez classique, connue à l'avance du public, car elle est l'objet de nombreuses pièces de théâtre qui circulent à travers la France et l'Europe. Je vous résume. Pour économiser de l'argent, Harpagon, l'avare, a élaboré un plan en deux parties. Premièrement, marier ses enfants, Cléante et Élise, à des personnes riches et beaucoup plus âgées. Deuxième partie du plan, organiser son propre mariage et celui de ses enfants le même jour. Petite complication, Élise, la fille d'Harpagon, aime le jeune et beau Valère. Et elle ne veut pas du tout épouser Anselme, l'homme âgé choisi par son père et qu'elle ne connaît d'ailleurs pas. Quant à Cléante, le fils d'Harpagon, il veut épouser Marianne, une jeune fille sans fortune. Cette même jeune fille Marianne qu'Harpagon veut justement épouser lui aussi, rendez-vous compte. Eh bien, au thème du mariage forcé, assez classique à l'époque, Molière ajoute ici le conflit père-fils, avec pour Harpagon la quête, disons, faustienne, d'une éternelle jeunesse, grâce au mariage avec une jeune fille qui a l'âge de sa propre fille et de son propre fils. Des sujets déjà très sensibles à l'époque de Molière, et bien contemporains également, non? Bon, rappelons sans perfidie que Molière, à l'âge de 40 ans, a lui-même épousé la jeune Armande Béjart, âgée quant à elle de 20 ans. Quoi qu'il en soit, dans ses pièces, Molière défend toujours les jeunes gens amoureux contre l'autorité paternelle. Par exemple, dans cette version de « L'école des femmes », proposée la veille, à Saint-Leu, par la compagnie Viva, où la jeune Agnès, présentée d'abord comme une automate, se déchaîne finalement contre le mariage prison auquel la destine le vieil Arnolf, alors qu'elle aime le jeune et beau Horace, présenté dans cette version, la compagnie Viva, comme un aviateur digne du Petit Prince. Dans les deux pièces, le conflit semble sans aucune solution que l'abus de pouvoir du père ou du tuteur, et donc une défaite des « héros », entre guillemets, les jeunes gens. C'est ce qu'on appelle le nœud de la pièce. Alors, comment le conflit se résout-il? Eh bien, par un coup de théâtre, au sens propre du terme évidemment, c'est-à-dire un événement inattendu, un retournement de situation, une révélation qui permet la résolution du conflit, ce qu'on appelle le dénouement, au premier sens du terme, là encore, coup de théâtre, qui est permis par une reconnaissance qui arrange tout. Par exemple, dans l'Avare, on découvre à la fin qu'Anselme est en fait le père de Valère et de Marianne et qu'il est prêt à payer les deux mariages pour le bonheur de ses deux enfants et aussi pour la joie d'Harpagon, évidemment. Pour en revenir à la mise en scène de l'Avare par Jean Villard au Festival d'Avignon de 1952, qu'on a entendu il y a quelques minutes, un critique enthousiaste de l'époque écrivait « Villard a su redonner à l'Avare une jeunesse, une actualité proprement incroyable, c'est-à-dire qu'il ne conçoit point la pièce comme un monument d'un lointain XVIIe siècle, mais comme l'éternelle comédie humaine d'aujourd'hui et de chaque jour, celle dont on rit plutôt que d'en pleurer. » Justement, à propos d'éternelle comédie humaine d'aujourd'hui et de chaque jour, intéressons-nous à la mise en scène que L'Île aux bords a donnée à la Comédie française au printemps dernier. L'Île aux bords, figurez-vous, a situé la pièce en Suisse, oui, juste après la Deuxième Guerre mondiale, bien avant l'émancipation féminine, bien avant la libération de la jeunesse et de la société. Harpagon, banquier sans scrupules, accumule ses richesses dans une cassette. Je cite, à l'image des grandes banques internationales avec tous ses lingots et ses bijoux enfermés dans des coffres comme dans des mausolées. Comment dire? Ces jours-ci, Harpagon aurait pu être incarné par, disons, le patron de Total, non? Voilà. Bah écoutez, je soumets l'idée au syndicat qui bloque actuellement les dépôts pétroliers. Tenez-moi au courant, les gars. Allez, on découvre ensemble un extrait de la pièce mise en scène par L'Île aux bords pour la Comédie française cette année, avec les comédiens Laurent Stocker, qui interprète Harpagon, l'Avare, Serge Bagdasarian, qui est Maître Jacques, et Clément Bresson, qui joue Valère. Dans cette scène culte, Harpagon fulmine contre Maître Jacques, son cuisinier, qui ne tarit pas d'idées pour un menu fastueux et horriblement coûteux à préparer aux invités de son maître. Valère, hypocritement, mais surtout stratégiquement, soutient Harpagon et prononce cette réplique on ne peut plus célèbre, ce chiasme modèle du genre, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Formule qui bien entendu enchante Harpagon bien sûr, mais qu'il a un peu de mal à répéter dans le bon ordre. Comique de mots assuré, écoutez.
Combien serez-vous de gens à table?
Nous serons... Mais il ne faut prendre que 8.
Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10.
Cela s'entend.
Eh bien, il faudra 4 grands potages et 5 assiettes potages.
Diable, voilà pour traiter toute une ville entière.
Grand attelage de langoustines et homards en son carrosse. Asperge en postillon sur une écume de foie gras avec des rosés en truffes.
Oh, traître, tu manges tout mon bien.
Fruite du lac en gelée de château Iken sur un lit de caviar petit grain iranien.
Encore.
Sorbet de mangue de Weng.
Oh, diable, voilà pour traiter toute une ville entière.
Julienne de fruits du dragon. Avec une infusion glacée de verveine de Windsor.
Oh, traître, tu manges tout mon bien.
Petite mignardise au chocolat.
Encore.
À la nicotine.
Encore.
Café à la Crésus.
Encore.
Avec de la crème fouettée.
Encore.
Et des noix de
Encore. Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur,
A-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous-en lire un peu les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès.
Il a raison.
Oui, apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Que pour se bien montrer ami de ce que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que selon les dires d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Oh, comme cela est bien dit. Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre.
Non, c'est pas ça.
Comment est-ce que tu dis?
Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre.
Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce deuxième rendez-vous conte consacré à Molière, M comme Molière, dans le cadre de la célébration du quadricentenaire de la naissance de notre grand dramaturge en 1622. Mais d'abord, d'où vient ce nom Molière, alors que tout le monde sait qu'il s'appelait à la naissance Jean-Baptiste Poquelin? Tout d'abord, il faut savoir que on n'en sait rien. Molière n'a jamais expliqué le choix de ce pseudo théâtral. On n'a aucune trace, aucun écrit de sa part. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, à l'époque, Molière s'écrivait sans accent, sur le E, et d'ailleurs se prononçait Moulière. Alors, première hypothèse, la plus simple, beaucoup de comédiens prenaient comme surnom un élément lié à la terre, la France étant encore particulièrement rurale. Et par exemple, dans sa troupe, il y a un comédien qui s'appelle Lagrange. Alors, Molière, peut-être s'agit-il d'une référence à ces terres molles, grasses, marécageuses, qu'on trouve souvent en province, molles, Molière, allez savoir. Deuxième interprétation, un petit peu plus perfide, certains voudraient y voir comme le côté efféminé, un peu homosexuel, disons, de Molière. C'est vrai qu'il a fréquenté des cercles de grands seigneurs dans lesquels apparaissaient certains homosexuels très connus. Bon. On parle aussi de sa liaison supposée avec un très jeune membre de sa troupe, âgé de 12 ans, Molière, inspiré par le latin « moulière » qui voulait dire « femme ». Allez savoir. Autre hypothèse, aussi farfelue, Molière viendrait du verbe de l'ancien français « moliéré », c'est-à-dire légitimé. Quand à l'époque, un grand seigneur pouvait moliérer, c'est-à-dire légitimer, un enfant bâtard. Alors, on pourrait penser à ce que Louis XIV aurait moliéré Molière en l'anoblissant d'une certaine façon, mais le problème, c'est que Molière avait déjà choisi ce pseudo avant même que Louis XIV ne le connaisse. Autre hypothèse, peut-être plus intéressant, on pourrait y voir l'influence de Corneille. Ouais, Corneille. Alors, relation un petit peu trouble, un peu équivoque, un peu mystérieuse, entre le grand auteur dramatique vieillissant, Corneille, et puis le jeune homme montant de la scène française, Molière. Une des théories qui a beaucoup circulé, c'est que Corneille aurait écrit une grande partie des pièces de Molière. C'est une théorie qui a couru au début du XXe siècle, donc on retrouve même encore aujourd'hui sous la plume de quelques romanciers, et selon laquelle, oui, Corneille, vieille gloire finissante du théâtre, aurait eu le temps, lui, en secret, de composer les pièces de Molière. Ça serait une sorte d'accord secret entre les deux hommes. Et d'ailleurs, l'un des arguments de ceux qui affirment que Corneille a écrit une partie des pièces de Molière est que ce dernier n'avait pas le temps matériel d'assumer son rôle de directeur de troupe et celui de comédien, tout en se voyant obligé de répondre aux exigences impérieuses de Louis XIV, lui ordonnant par exemple de créer une nouvelle œuvre en un délai impossible ou presque à respecter. Figurez-vous qu'on ne fait pas attendre celui qui avait tancé d'un glacial « j'ai failli attendre » un ministre se présentant à lui juste à l'heure à un rendez-vous. Cette pression, ce temps surbooké, pourrait-on dire pour Molière, eh bien, est soulignée dans une autre des productions de la Comédie-Française cette année. une production intitulée « Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres », mise en scène par Julie Deliquet. Dans le décor communautaire d'une auberge théâtrale, où cohabitent les comédiens adultes et leurs enfants, les fortes personnalités de Molière et de sa troupe partagent leurs doutes et leurs divergences de vues face aux urgences auxquelles ils doivent sans cesse faire face. Extrait.
Excusez-moi, mais on n'est pas prêt là. Non, Jean-Baptiste, on n'est pas prêt. Regarde.
Nous ne sommes pas loin.
Non,
attends, les enfants ont faim, il faut qu'ils mangent avant qu'on aille jouer.
Très bien, je commence par le point qui, vous vous en doutez, est le plus pressant, qui concerne la sécurité. Pendant les représentations de l'Italie.
C'est une étrange chose quand même, hein, que les critiques condamnent toujours les pièces où tout le monde court et ne disent du bien que de celles où personne ne va.
Circé.
Parce qu'il y a quand même une grande différence entre les comédies et la beauté des pièces sérieuses.
Ça devrait te réjouir.
Me réjouir? De voir ma fille faire la saltimbanque et d'être enterrée dans la fosse commune, ça me fait me réjouir.
Moi, je n'inventerai pas mon texte.
Jean-Baptiste, tu veux que je te dise, t'aurais dû écrire une pièce ou t'aurais joué tout seul.
Le roi veut voir la pièce cet après-midi.
Puisque nous évoquions l'avare, faisons un petit peu de ce qu'on appelle l'onomastique, c'est-à-dire étudions le sens des noms propres dans les œuvres de fiction. Tenez, Harpagon, l'avare, eh bien, savez-vous que son nom vient du latin harpago, qui voulait dire harpon, rapace, lui-même issu du grec ancien, signifiant avidité, rapacité. Ça tombe bien, non, pour l'avare, bien choisi. Quant à Marianne, la jeune fille que veut épouser Harpagon, Marianne avec un seul N, figurez-vous. Hein, c'est le nom de la jeune femme dont Harpagon et son fils Cléante sont amoureux dans l'avare. Dans cette pièce, qui date de 1668, Marianne représente l'enjeu du libre choix personnel contre le choix imposé par la force par son détestable papa. Un peu d'imagination, et on peut se dire que cette Marianne-là gagnera quelques 120 ans plus tard un deuxième N et deviendra la fameuse Marianne, figure allégorique de la République française, icône de la liberté et de la démocratie. Rendez-vous compte. Pendant que nous y sommes, donc, le nom d'Harpagon vient, je viens de vous le dire, du latin qui voulait dire harpon, avide, rapace, mais Harpagon a une espèce de double, un autre vieux barbon, autoritaire et tyrannique, avec ses enfants comme avec ses domestiques. Il apparaît par exemple dans Le médecin malgré lui, où il est le père de la jeune Lucinde, devenue subitement muette le jour où il lui a annoncé qu'il voulait la marier avec un homme beaucoup plus âgé. Cet autre double d'Harpagon, il s'agit de Géronte. Géronte, le père autoritaire, tyrannique, dont le nom vient du mot grec signifiant tout simplement vieillard. Géronte, c'est aussi le père du jeune Léandre, soi-disant, et au dire du valet Scapin, enlevé à bord d'une galère par un Turc qui réclame des centaines d'écus pour sa libération. Mais que diable, vraiment, Léandre allait-il faire dans cette galère entièrement imaginée par le malin valet? Allez, extrait des fourberies de Scapin.
Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas par moi tout à l'heure 500 écus, va nous emmener votre fils en Alger.
Comment, diantre? 500 écus?
Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures.
Pandard de Turc, m'assassiner de la façon...
Ah, c'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Il ne songeait pas à ce qui est arrivé.
Scapin, oui. Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui.
La justice, en pleine mer. Enfin, vous moquez-vous des gens?
Que diable allait-il faire dans cette galère?
Une méchante destinée conduit parfois les personnes.
Capin.
Oui.
Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle.
Et quoi, monsieur?
Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils. Et que tu te mettes à sa place. Plus à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande.
Monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils?
Que diable allait-il faire dans cette galère?
Il est vrai, mais quand ne devinez pas ce malheur, songez qu'il ne m'a donné que 2 heures.
Fourberie de Scapin, mise en scène par la compagnie Néo-Vent, par Marie Martine et Pascal Montel. Géronte, donc, vient du grec vieillard. Quant au nom de Scapin, il vient du verbe italien scapare, qui signifie s'échapper. Pas étonnant, Scapin est le type même du valet bouffon, issu de la Commedia dell'arte italienne. Celui-ci avait d'ailleurs pour ancêtre, dans les comédies latines de l'Antiquité, l'esclave rusé capable de s'échapper, scaparer, de toutes les mauvaises situations et de dénouer les intrigues les plus ardues, tout en s'offrant au passage quelques fourberies aux dépens de son maître. Avec Molière, vous le voyez, la tradition ancienne est donc préservée. Puisque nous en sommes au sens du nom de certains personnages moliéresques, la semaine dernière, je vous avais raconté la malheureuse histoire du valet Sosie de la pièce Amphitryon, inspirée d'ailleurs par un mythe gréco-latin. Dans cette pièce, Sosie est un serviteur, empêché de rentrer dans la demeure de son maître par le dieu Mercure, qui a pris son apparence parfaite. Sosie s'était donc retrouvé devant son sosie. Le nom commun sosie, signifiant personne ayant une ressemblance parfaite avec une autre, provient bien de sosie, le personnage de théâtre antique. Le processus, un nom propre devenu nom commun, s'appelle une antonomase, un processus particulièrement courant. La mythologie grecque et romaine a fourni de nombreux noms issus de noms propres, ce qu'on appelle des antonomases. Par exemple, l'aurore, la belle aurore aux doigts de rose, hein, célèbre grâce à Homère. La discorde, une déesse avec sa pomme qui est à l'origine, figurez-vous, de la guerre de Troie, je vous raconterai ça une autre fois. Mais aussi Minerve, Hercule, Cupidon, Apollon, Mercure, les Muses, les Furies, les Titans, le Chaos. Tout ça, ce sont des noms devenus communs, mais issus de la mythologie grecque et romaine, des noms de dieux la plupart du temps, ou de déesses. D'autres antonomases viennent tout simplement du nom de marque. Exemple, bateau-mouche. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine du nom bateau-mouche. Ça aussi, c'est assez amusant. Mais vous avez également canadair, cellophane, chamallow, digicode, formica, maïzina, thermos, yo-yo, stabilo. Tout ça, ce sont des noms communs qui nous viennent de marques réellement existantes. Histoire de rendre hommage à Molière, issu d'une famille bourgeoise aisée, son père, et lui-même a été d'ailleurs un temps tapissier du roi Louis XIV, histoire donc de rendre hommage au bourgeois Molière, devenu le plus grand gentilhomme de notre théâtre. Écoutons un extrait de la musique composée par Jean-Baptiste Lully pour la somptueuse comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme. Pour une fois, le bourgeois gentilhomme, ce ne sera pas Monsieur Jourdain, mais Monsieur Molière en personne. Février 1673, Molière, gravement souffrant, crée au théâtre du Palais Royal une joyeuse comédie dont le titre était un défi personnel à la mort. Le malade imaginaire, bien sûr. Au lever du rideau, Argan, le malade bien portant, joué par Molière, maquillé d'un teint de santé florissante, est installé dans un grand fauteuil en robe de chambre et bonnet, plongé dans l'examen du mémoire de son apothicaire. Une semaine plus tard, le 17 février, au cours de la dernière scène, Molière est pris d'un crachement de sang, Alors, contrairement à un mythe tenace, il ne meurt pas dans ce fameux fauteuil sur scène, mais quelques heures plus tard, chez lui, entouré de ses comédiens. Quant au fauteuil, il va accueillir des générations de comédiens qui reprennent le rôle d'Arcan, le malade imaginaire. Dans l'intervalle des représentations, le fauteuil était déposé dans la salle d'assemblée des comédiens. C'était, en quelque sorte, le siège d'honneur, réservé au comédien le plus éminent de la troupe. Le fauteuil prenait peu à peu une valeur symbolique, mais il continuait à remplir son emploi de fauteuil de théâtre, et même dans d'autres pièces que le malade imaginaire, et même dans d'autres théâtres. En 1799, il est prêté par le théâtre de l'Odéon au théâtre de la République, qui occupait alors le monument actuel de la Comédie-Française. Prêté par le théâtre de l'Odéon et oublié. Alors, quand le 18 mars, l'Odéon brûle, eh bien, le fauteuil qui n'avait pas été restitué par le théâtre de la République, grâce à cette négligence, échappe à la destruction. Rendez-vous compte. Mais ce fauteuil révéré continue à jouer dans le malade imaginaire et dans d'autres pièces. Sa peau, entre guillemets, sa peau noire, perdait sa coloration et s'écaillait dangereusement. Alors, figurez-vous, un sosie, ouais, j'ai bien dit un sosie, du grand fauteuil, fut livré au Argan moderne. Quant au fauteuil de Molière, il devient une véritable relique. Il ne paraît plus dorénavant sur la scène de la Comédie-Française que le jour anniversaire de la naissance de Molière, le 15 janvier. Vous pouvez retrouver l'histoire de ce fauteuil sur le site de la Comédie-Française. On écoute la fin de la première scène et le début de la deuxième scène de cette ultime pièce de Molière. S'agitant dans son fameux fauteuil, Argan, le malade imaginaire, fait sonner frénétiquement sa clochette pour appeler sa servante Toinette et ensuite il lui reproche violemment son retard à se présenter devant lui. Mais, comme il se doit chez Molière, la dite servante crie aussi fort que son maître. On entend d'abord Michel Bouquet, seul, dans une mise en scène jouée au théâtre de la Porte Saint-Martin en 2008, puis on entendra Alain Pralon, Argan, et Catherine Yégel, Toinette, dans une mise en scène de la Comédie Française en 2001.
Trolin, 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 tout comme si je ne sonnais point, chienne, coquine, drolin, 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 carogne à tous les diables, est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul, drolin, drolin, drolin.
On y va.
Ah, chienne, ah, carogne.
Diantre, sois fait de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet.
Oh, ah. Maîtresse, il y a...
Oh.
Il y a une heure. Ah. Tu m'as laissé, ah. Tais-toi donc, coquine, que je te querelle.
Ça, mon, ma foi, j'en suis d'avis. Après ce que je me suis fait...
Tu m'as fait égosiller, carogne.
Et vous m'avez fait, vous, casser la tête. L'un vaut bien l'autre, quitte à quitte, si vous voulez.
Ah, quoi, coquine.
Si vous querellez, je pleurerai.
Me laisser, traître, ah. Chienne, tu veux...
Ah.
Quoi? Faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller.
Quereller, tout votre sou, je le veux bien.
Tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup.
Si vous avez le plaisir de quereller, faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, c'est pas trop. Ah.
Lors du spectacle littéraire et musical donné à Saint-Leu-la-Forêt ce samedi 15 octobre à l'initiative de l'association Point de Suspension et intitulé Molière Insolite, Thierry Leclerc a interprété ce bel hommage rédigé peu après la mort de notre génie national selon la formule consacrée.
Épitaphe par Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit Bussy-Rabutin, 1618-1693. Passant, ici repose un qu'on dit être mort. Je ne sais s'il rit ou s'il dort. La maladie imaginaire ne peut pas l'avoir fait mourir. C'est un tour qu'il joue à plaisir, car il aimait à contrefaire. Quoi qu'il en soit, si j'y Molière. Comme il était comédien, pour un malade imaginaire, s'il fait le mort, il le fait bien.
Ainsi se termine notre deuxième Rendez-vous Compte, consacré à Molière, M comme Molière. Rendez-vous Compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delattre sur IDFM 98, la semaine prochaine, même heure, sur IDFM, pour un nouveau Rendez-vous compte.